Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Puisque il est l'heure et que le quorum est atteint, je vous propose de commencer cette séance du conseil municipal. Je salue le public, et bien entendu, vous-même les élus municipaux qui êtes là. Nous avons des pouvoirs, celui de Mme Massendès à M. Faure, de Mme Chapeau à M. Petit, de Mme Malher à Mme Trévilly. Je demanderai à Mme Trévilly d'assurer le secrétariat de séance comme elle le fait habituellement. Et vous propose tout de suite d'approuver le PV qui a été transmis par voie électronique le 3 juin 2019, qui concernait bien entendu la séance que nous avons tenue le 27 mai en ces lieux. Y a-t-il des remarques particulières ? Je le soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Merci pour cette unanimité. Premier point, recomposition du conseil communautaire de la Cove en vue de renouvellement général des conseils municipaux et intercommunaux. Vu l'article 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2018-13028 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations des communes composant la Cove notamment, considérant que la loi prévoit que le préfet doit prendre l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux un arrêté fixant le nombre et la répartition entre les communes des conseillers devant former l'organe délibérant de la COVE, considérant que cette recomposition peut prendre l'une ou l'autre des deux formes suivantes, soit la composition de droit commun issue des règles de l'article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales susvisées, par application d'une répartition proportionnelle à la population de chaque commune assortie de la garantie d'un siège au minimum pour chaque commune, soit une composition issue d'un accord local encadré par les règles du même article. Considérant que la composition du Conseil communautaire de la COV, après être passée de 47 membres à 63 membres en 2014, avait été ramené à 60 membres suite au vote de la majorité qualifiée des conseils municipaux et constaté ainsi par arrêté préfectoral en date du 3 mars 2016, alors suite à un tableau lequel reprend l'ordre, les communes dans l'ordre alphabétique, en regard la population municipale 2016 et le nombre de sièges à la COV, pourvu, bien entendu, d'un suppléant lorsque les dites communes, qui étaient généralement des communes de petite taille, ne comportaient qu'un seul délégué, donc il était automatiquement assisté d'un suppléant, alors que pour des communes comme la nôtre qui porte deux élus donc désignés, il n'y a pas de suppléance, le deuxième élu pouvant fort bien porter le pouvoir des premiers. Donc, pouvez-vous me dispenser de lire tous ces chiffres ? Je vous en remercie. Or, aujourd'hui, compte tenu de la population municipale authentifiée par le décret susvisé, les communes peuvent choisir l'une des deux solutions suivantes. Soit en application du droit commun, maintenir la composition du conseil communautaire dans sa configuration actuelle avec 60 élus, soit, conformément à la possibilité ouverte par la loi et en application des règles arithmétiques de cette dernière, conclure un accord local réunissant une majorité qualifiée des communes pour créer 7 sièges supplémentaires, augmentant ainsi le nombre d'élus à 67, suivant la répartition suivante. Alors je vais dans un premier temps vous donner le nombre de délégués tel qu'il pourrait être si l'on appliquait la configuration actuelle avec 60 élus, où nous avions justement travaillé à une certaine harmonisation. Cela touche notamment les communes des strates moyennes, c'est-à-dire comme la nôtre, donc c'est-à-dire les communes entre 1500 et 3500 habitants, où avait été désigné le nombre de sièges, avait été donc adopté le nombre de sièges suivant. Aubignan comportait 4 sièges, le Barou 1 plus 1 suppléant, le Bossé 1 plus 1 suppléant, Baume de Venise 1 plus 1 suppléant, Beaumont du Ventoux 1 plus 1 suppléant, Bédouin nous-mêmes donc 2 titulaires, Caron 2 titulaires, Carpentras 23 titulaires, Crillon-le-Brave 1 plus 1 suppléant, Flassan 1 plus 1 suppléant, Gigondas 1 plus 1 suppléant, Lafare 1 plus 1 suppléant, L'Oriol 2 représentants, Malocène 2 représentants, Mazan 4 représentants, Modène 1 plus 1 suppléant, La Roque-Alric 1 plus 1 suppléant, La Roque-sur-Perne 1 plus 1 suppléant, Saint-Didier 1 plus 1 suppléant, Saint-Hippolyte-le-Graveyron 1 plus 1 suppléant, Saint-Pierre-de-Vassol 1 plus 1 suppléant, Sarian 4, Suzette 1 plus 1 suppléant, Vaqueras 1 plus 1 suppléant, Venasque 1 plus 1 suppléant, pour un total de 60 représentants pour 69 413 habitants. Et on constate bien entendu que chacune des communes est représentée par au moins un représentant. Et ensuite, donc, il y a des représentations proportionnelles. Qui sont plus nombreuses, sachant que dans certaines communes, et à partir du troisième représentant, c'est automatiquement un représentant de la minorité municipale qui siège au conseil intercommunautaire. Et c'est le cas, donc, notamment bon, pour Aubignan, Carpentras, donc il y a une répartition qui est un peu plus particulière compte tenu du nombre de représentants et bien entendu du nombre de listes en présence. C'est le cas aussi pour Mazan et c'est le cas pour Sarian. Donc ça, c'est ce que nous aurions actuellement si on maintenait suivant la même règle. Il existe une autre possibilité, donc qui affine un petit peu plus les attributions de sièges et qui permet à certaines communes, comme je vous le disais, d'une strate moyenne, d'avoir des représentations différentes. Donc, le projet serait inchangé pour Aubignan avec 4, 1 plus 1 suppléant pour le Barou inchangé, le Bossé 1 plus 1 suppléant inchangé. Par contre, Baume de Venise verrait 2 représentants en lieu et place d'un tel qu'ils en bénéficient actuellement, où ils en ont un plus un suppléant. Beaumont du Ventoux reste inchangé, un plus un. Bédouin, 3 représentants, plus un, c'est un siège qui échoirait automatiquement à la minorité, et à la minorité la plus importante dans l'hypothèse où il y aurait plus de 2 listes. Caron serait dans le même cas. Carpentras resterait inchangé, Crillon-le-Brave inchangé, 1 plus 1, Flassan 1 plus 1 suppléant, Gigondas 1 plus 1 suppléant, Lafare 1 plus 1 suppléant, L'Oriol du Comtat donc resterait à 2, Malocène passerait à 3, donc verrait une répartition 2 plus 1, Mazan serait à 5, donc plus 1, ce qui ferait donc 3 plus 2, Modène 1 plus 1 inchangé, La Roque-Alric 1 plus 1 inchangé, La Roque-sur-Perne 1 plus 1 inchangé, Saint-Didier 2 plus 1 qui resterait donc du parti majoritaire donc ayant été élu, les deux, Saint-Hippolyte 1 plus 1 inchangé, Saint-Pierre-de-Vassol inchangé, Sarian 5 plus 1, donc ça donne un élu de plus donc qui irait à une minorité. Suzette inchangé, Vaqueras inchangé, Bonasque inchangé, et le tout donc donnerait 67 représentants. Donc si l'on récapitule ce qui changerait par rapport à la représentation actuelle, donc il s'agirait de Baume de Venise, plus 1, Bédouin, plus 1, Caron, plus 1, Malocène, plus 1, Mazan, plus 1, Saint-Didier, plus 1, et Sarian, plus 1. Et vous retrouvez ces chiffres sur le tableau. Donc c'est donc la répartition. Alors nous avons une, nous devons prendre cette décision avant la fin du mois d'août. Et donc c'est ce que je vous propose de faire ce soir, en approuvant le principe de l'augmentation pour toutes ces communes de taille moyenne. À un moment donné, c'est une représentation qui est plus fine que ce que le préconiserait le premier système, donc c'est-à-dire celui du droit commun, et qui permettrait aussi, ici et ailleurs, une plus grande expression démocratique, donc du droit de représentation des minorités. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair? Le tableau est assez difficile à lire. Faites-moi-en grâce.
Non, je pense que c'est suffisamment clair, mais qu'est-ce qui a amené cet accord local, cette motivation pour augmenter de 7 conseillers C'est seulement ce qui regarde la répartition proportionnelle de la population.
Voilà, c'est essentiellement...
Bobignan gagne beaucoup de population et ne gagne pas de conseillers. Donc,
5602 par rapport à 5324.
Oui.
On se réfère à ceux de la première page.
Oui.
Mais à des moments donnés, on est sur des
questions, hein, c'est pas...
Non, des strates à 300, une variation de 300 habitants pour une ville comme Bobignan ne lui permet pas d'avoir encore un délégué de plus. On a un petit peu le même problème pour Carpentras, donc qui se retrouve actuellement à 28 554, qui a une augmentation aussi et qui ne bouge pas. Et nous, ce qui s'était produit...
Alors que nous, on en perd de la population et on gagne un siège. Ce qui est bien, puisqu'il va à la minorité.
Oui, mais ça reste proportionnel tout de même par rapport à la masse globale du tableau. Alors, je n'ai pas procédé non plus personnellement.
Ouais, c'est à la plus forte moyenne, c'est ça.
C'est
une question de plus forte moyenne. Aussi.
C'est une question de plus forte moyenne. Ouais. Bon, ensuite, ça nous a semblé plus judicieux de la même manière que lors de la première répartition, et c'est Pierre qui s'en était fait notre interprète. On se trouvait, mais ce n'est pas du tout un jugement de valeur contre certaines communes, on se trouvait, nous qui avions 3000 à l'époque, 370 habitants, traités au même niveau que Saint-Didier, qui en avait 2000 à l'époque, 2600 et quelques. Là, on avait tout de même un différentiel important. Et donc l'adoption et d'autres cas se présentaient de la même manière, je me souviens en particulier de celui-ci, et donc on avait adopté ce système, hein, Pierre, vous vous en souvenez, là, qui nous avait conduit justement à être 60 avec deux élus, alors que Saint-Didier, par exemple, n'en avait plus eu qu'un, alors qu'il aurait pu éventuellement en avoir deux. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres...
Juste une remarque, effectivement, on fait un ratio à la population, ce qui s'entend et ce qui comprend. Par contre, de fait, on affaiblit un petit peu les très petites communes. Mais bon, après, quelle est la vraie bonne solution, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les petites communes, forcément, avec un seul représentant, vont peser au final encore moins. Mais bon,
oui,
quel choix à faire. Monsieur Juste, une remarque.
Oui, et la grosse commune aussi va peser de la même manière un peu moins puisque leur nombre reste
à 23.
Ouais. Donc disons, c'est peut-être aussi un peu plus une prime à la ruralité, tel que ça a été exprimé parfois. Y a-t-il d'autres questions, sachant qu'ensuite, effectivement, on adopte une grille, puis ensuite, quant à savoir comment on s'organisera le conseil intercommunal, bien malin qui saurait le dire, l'ancien concours de pronostic.
Il va se mettre en place là, rapidement.
Ah, ça se mettrait en place lors des prochaines élections. Mais en fait, ça, pour nous par exemple, ça ne change rien de plus puisque dans chaque liste, on désigne deux personnes pour siéger à l'intercommunalité dans chacune des listes. Par contre, certaines communes seront obligées d'en mettre... Oui, mais nous, de toute façon, ce sera toujours de plus un.
C'était pareil.
Oui. Par contre, sur certaines communes, ceux qui passent à 4, Aubignan, il y a Aubignan, il doit y avoir Mazan, où ça peut bouger, et Sarian. Voilà, les un peu plus gros des plus petits. Donc je soumets donc à vos suffrages cette deuxième version, où nous passerions, donc je le répète, de 2 élus à 3 élus au sein de l'intercommunalité. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Denis Faure, vous nous passez, vous nous parlez d'une décision modificative, s'il vous plaît.
Alors, merci. La Direction générale des finances publiques verse périodiquement à la collectivité une partie du produit de la taxe d'aménagement instituée en 2013, qu'elle recouvre auprès des dépositaires de permis de construire. Ces versements sont en principe effectués net de la compensation des annulations ou modification des autorisations d'urbanisme faisant l'objet d'un remboursement au pétitionnaire. Le processus de récupération automatique du trop versé n'a pas pu être mis en œuvre pour les années 2014 et suivantes. Il convient donc d'engager la régularisation de cet indu qui s'élève à 2616,45 €. Et qui fera l'objet d'une récupération sur les versements hebdomadaires de la taxe d'aménagement au profit de la commune. Conformément à l'article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé une décision modificative au budget principal permettant d'ajuster les prévisions budgétaires initiales votées le 11 avril 2019 en section d'investissement, tout en maintenant l'équilibre budgétaire afin de prévoir les crédits nécessaires à cette opération financière. Donc, suit un tableau, dépenses-recettes, les dépenses au compte 10-226 plus 2620 et aux recettes au même compte plus 2620. Vu la délibération 2019-054 du 11 avril 2019, portant approbation du budget de la commune pour l'exercice 2019, vu le projet de décision modificative numéro 1, il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 telle qu'annexée à la présente délibération.
Très bien. Donc c'est une opération de régularisation, vous le voyez, qui s'inscrit aussi bien au compte dépenses que recettes, mais qui semble nécessaire à notre comptable pour nous donner des comptes justes et parfaits. Des questions particulières? Non, je le soumets donc à vos suffrages, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Pour le budget principal 2019, des admissions en non-valeur, Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la présentation de demandes d'admission en non-valeur numéro 35-56-98-02-31, déposé par Madame la responsable du Centre des finances publiques de Carpentras en date du 12 mai 2019, considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par Madame la responsable du Centre des finances publiques de Carpentras dans les délais réglementaires, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement, Monsieur le maire précise que le montant global des 12 titres émis entre 2013 et 2017 s'élève à 1763,99 € et concerne le budget principal. L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont le comptable public dispose ayant été mises en œuvre, il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de cette demande. Il est demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demande en non-valeur numéro 35-56-98-02-31, joint en annexe, présenté par Madame Evelyne Giuliani, responsable du Centre de finances publiques de Carpentras, pour un montant de 1763,99 € sur le budget principal, et de préciser que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur seront inscrits au budget principal 2019 à l'article 6541, créance admise en non-valeur.
Bien, merci. Pour compléter donc les explications de M. Faure, sachez que nous avons 12 pièces 12 pièces qui ont fait l'objet soit de poursuites sans effet et qu'on a une personne qui a disparu. Je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est qu'on n'est plus arrivé à la contacter. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Et ici, pour la crèche, on a trois titres de recettes avec deux débiteurs pour les années 2013 et 2016. Pour la taxe de séjour, on a deux titres, donc avec deux débiteurs pour l'année 2016. Le pôle JE cantine plus ALSH, c'est là où nous avons le plus de soucis. Nous avons six titres et deux débiteurs. Et pour la bibliothèque, donc, nous avons un titre et un débiteur, c'est pour l'année 2017. Pour un total, comme vous le voyez, qui est relativement, donc, qui est toujours trop important quand on nous le doit, mais qui est relativement réduit et qui n'a pas pu être régularisé malgré les relances multiples et recherches de la perception. Bien. Des questions particulières là-dessus ?
C'est toujours la perception qui fait les recherches et les relances.
Oui, oui, oui. Ouais. Puisqu'on a une convention avec eux. Mais là aussi, vous vous souvenez qu'il y a des seuils au-dessous desquels ils n'interviennent pas.
50.
50 ou 60, on est 60. Un peu moins, même un peu moins.
Ça, c'est 50.
50 entre 50 et 60 euros. Et donc, à un moment donné, je crois qu'il faut savoir ne pas traîner ces sommes assez minimes dans des budgets de façon indéfinie. Je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 4, acquisition foncière auprès de la maison de retraite Albert Artillan. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Alors, monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2016-009 du 1er février 2016, le conseil municipal a donné son accord pour l'acquisition d'un terrain issu de la division de la parcelle cadastrée initialement G numéro 1373, propriété de la maison de retraite Albert Artillan, afin d'y construire la maison de santé pluriprofessionnelle venant ajouter une nouvelle EHPAD. Une seconde délibération portant numéro 2017-129 en date du 14 décembre 2017 a autorisé l'acquisition de trois nouvelles divisions destinées à une zone de stationnement à proximité du cimetière et à l'élargissement du chemin des Florents et de la maison de retraite. Ces cessions intervenaient à l'euro symbolique, la commune s'étant par ailleurs engagée à réaliser un cheminement piétonnier et à aménager une aire de jeu pour enfants et à supporter les frais. Dans le cas de l'aménagement du chemin sur la parcelle cadastrée G numéro 1506, il s'avère nécessaire d'acquérir une bande de terrain de 14 mètres carrés afin de sécuriser la sortie de cette future voie sur la route départementale. La nouvelle cession proposée interviendrait de nouveau à l'euro symbolique. Le cabinet Grimont, géomètre expert, présente un plan de division foncière rectificatif qu'il convient de soumettre au conseil municipal. Donc, objet de, vous avez un tableau donc, avec objet, décomposition, parcelle, nouvelle numérotation et la superficie. Donc, les cessions à la commune. Pour la maison de santé, la nouvelle parcelle s'appelle G2172 et fait toujours 640 m². La parcelle G2173 pour le parking du personnel fait 247 m². Et les parcelles G2174 et G2175, respectivement pour 94 m² et 276 m², deviendraient le parking du cimetière. Cession à la commune pour l'intégrer dans le domaine public. Donc sur le chemin des Florents, donc l'alignement est généré par la parcelle G2176 pour 194 m². Et le long du chemin des Florents, la parcelle générée est la G2178 pour 395 m² sur une surface totale de 589 m². Enfin, la nouvelle cession à la commune, accès du chemin nord, un chemin qui conduit à la parcelle Audibert. Donc les deux nouvelles parcelles générées sont la G2183 pour 13 m² et G2169 pour 1 m², soit 14 m². Le reste restant, la construction du nouvel EHPAD court 11 500 mètres et la parcelle de la maison de retraite actuelle qui est pour une superficie de 5 807 mètres inchangée. Vu le projet de division foncière et de modification du parcellaire cadastral établi par le cabinet Grimont, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la propriété des personnes publiques, vu le crédit ouvert au budget du primitif 2019, sous réserve d'une délibération concordante du conseil d'administration de la maison de retraite Albert Artillan, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées section G numéro 2169, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2178 et 2183 d'une superficie totale de 1804 m², au prix de 1 € avec engagement de la commune de réaliser l'aire de jeu et le chemin de piétonnier, d'autoriser la signature de l'acte notarié par M. Jean-Marc Petit, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, et de donner tout pouvoir à M. le maire ou un adjoint faisant fonction en vue de l'exécution de la présente délibération et de la signature de toutes les pièces afférentes.
Très bien, merci. Donc vous l'avez compris, cette délibération reprend la totalité des actes que nous avions émis donc les uns après les autres. Le seul, je vais vous le faire circuler, donc le seul nouveau point étant l'acquisition d'une petite pointe, donc pour 1 m², 14 m², voilà, donc qui se trouve à l'extrémité. Et donc nous aurons, là je pense que cette fois-ci, ce sera ferme, définitif, et on ne voit pas ce qui pourrait subvenir à nouveau, et donc nous serons ainsi pleinement en possession de nos terrains. Y a-t-il des questions particulières là-dessus ? Bien, je le soumets donc à vos suffrages. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie pour cette unanimité. Point numéro 5. Protection sociale complémentaire du personnel communal. Participation financière au titre de la prévoyance. Monsieur Petit, s'il vous plaît.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2011-474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, vu la circulaire numéro RDFB 12-207-89C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Considérant les dispositions de l'article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 83 offrant la possibilité aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé et de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires actifs ou retraités attestés par la délivrance d'un label dans les conditions prévues. Oui, la proposition de M. le maire dans le domaine de la prévoyance de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents de la commune de Bédouin choisissent de souscrire. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 3 juillet 2019, il est demandé au conseil municipal de participer à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre de la procédure dite de labellisation à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, de verser une participation mensuelle d'un euro à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée, d'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 12 du budget principal de la commune.
Très bien. Merci, M. Petit. Donc, vous avez bien compris que c'est une aide et une possibilité que nous donnons à des agents d'avoir une protection sociale complémentaire. Et que cette intention donc se manifeste par une participation de la collectivité donc je n'ose pas dire à la prise en charge de leur cotisation, hein, sachant que si dans le privé il existe de nombreux systèmes qui se sont mis en place depuis longtemps et de façon quasi automatique, eh bien, les agents de services publics, dont on dit souvent beaucoup de choses, mais parfois à tort, ne bénéficient pas systématiquement de ces mesures-là. Eh bien, nous l'aurons fait, si vous en êtes d'accord. Et c'est donc la question que je vous pose. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie. Motion de soutien aux agents de la DGFiP. Monsieur Petit, pardon, Madame la Directrice Générale.
Merci, monsieur.
Oui, j'ai compris.
Le chapitre 12 du budget principal, mais aussi du budget de l'exploitation forestière.
J'ai compris. Pardon. Veuillez excuser cette omission, étant donné effectivement qu'on a trois budgets sur la commune. Il ne saurait être question d'accorder donc une assistance au personnel du budget général sans que celle-ci ne s'applique aussi au budget de la forêt. Nous avons donc un agent et demi, alors ça va être compliqué, et donc à la piscine camping, bien entendu, nous en avons plusieurs. Bien, donc quant à l'adhésion pour la totalité de nos agents de la commune qui en relève, des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité. La motion de soutien aux agents de la DGFiP.
Vu l'article L21-21-29, alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local, vu le projet de loi de finances 2019 publié au journal officiel du 30 novembre 2018, vu la menace des mesures annonçant la mise en cause du réseau comptable des finances publiques, considérant l'intérêt local qui s'attache à maintenir un service de proximité au bénéfice des collectivités territoriales avec la présence effective d'un comptable public pour un conseil avisé concernant les budgets et un suivi au quotidien de la gestion communale, il est demandé au conseil municipal d'émettre le vœu du maintien d'un maillage du territoire par les services de la Direction générale des finances publiques avec la présence effective d'une trésorerie à minima à l'échelle intercommunale.
Très bien. Alors donc, mais on a un petit peu de temps, je vais demander à madame. Donc de grands mouvements s'amorcent dans ce domaine. Il va y avoir une recomposition au niveau départemental qui va faire que les différentes trésoreries et autres, les différents comptables vont être redispatché. On aura par exemple, Carpentras conservera par exemple les entreprises. Tout ce qui est particulier sera en liaison avec Orange. Bon, on ne sait pas encore précisément si ce ne sera pas Maison, mais enfin, ce sera dans ce secteur. Nous avons pour les collectivités Monteux qui sera le pôle principal. Et donc, ce qui est prévu par les services de la DGFiP, finalement, c'est à la fois de réduire un certain nombre d'accueils, comme vous l'avez vu, notamment dans leurs compétences, mais par contre, de reventiler dans les établissements qui possèdent notamment des maisons de services au public, et c'est le cas pour nous, je pense que nous avions bien anticipé, de développer des accueils de proximité. Donc sur la carte qui vous a été distribuée, si l'on prend la carte Vaucluse 84, service de la DGFiP en 2019, 14 communes avec accueil de proximité, donc vous voyez le réseau tel qu'il est, hein, qui ne prend pas en compte les spécialisations. Vous pouvez constater qu'il y a sur Montmorin un accueil de proximité, mais qui n'est plus, ne rêvez pas, notre ancienne trésorerie, puisqu'elle a été supprimée, que nous sommes désormais donc affectés sur Carpentras, mais c'est simplement la présence qui est accordée à l'agence postale. C'est une poste ou une agence postale, Vincent ?
Où ?
Montmorin.
C'est une poste ?
C'est une poste, voilà, à la poste de Montmorin. Et le projet, tel qu'il a été présenté notamment par le directeur général il y a quelques jours à la COP où chacun de ce territoire était invité, nous aurions donc des services de la DGFiP qui viendraient, hein, indépendamment de la spécialisation dont je vous ai parlé, qui viendraient dans les MSAP, mais qui devraient très certainement se transformer en maison France Service, puisque là aussi on est dans des labellisations très fines, mais un peu il est important de le prendre en compte pour pouvoir être aidé, et ce serait le cas donc sur Bédouin. C'est une organisation mais sur laquelle on ne nous laisse pas grande latitude. Néanmoins, je reviens à l'objet premier de notre délibération. Nous souhaitons donc que le service soit maintenu. Alors le fait de multiplier les points de service ne signifie pas nécessairement que l'on aura des spécialistes et de la spécialisation. Et puisqu'on se demande, par exemple, nous, pour ceux qui nous concernent, s'il s'agira d'une permanence qui sera effective, fixée et figée, ou si l'on s'oriente plutôt, comme le font d'autres services, par exemple des banques, des privés, où ce sera l'avenue au cas où un administré donc si le demanderait. Et pour le moment, on en est là. Mais néanmoins, je vous propose donc de maintenir, d'émettre un vœu pour maintenir un maillage du territoire, hein, avec au moins la présence effective d'une trésorerie. Y a-t-il des questions, remarques particulières là-dessus ?
Remarques particulières, moi je me pose quand même la question sur ces accueils de proximité, des financements. Hein, on le voit avec la MSAP. Ça durait 2 ans, puis maintenant l'État se retire aussi d'un certain nombre de financements. Donc si derrière il y a l'assurance d'avoir un certain nombre de financements pour maintenir ces accueils de proximité, spécialisés ou pas, ou voir comment ça peut s'organiser, oui, c'est intéressant. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut quand même se battre pour essayer de maintenir ces services publics au sein de nos territoires.
C'est certain. Par contre, pour le financement de ce qui existe actuellement, il n'y a pas, pour le moment, un retrait de l'État. Hein, l'État, donc, maintient ses crédits. Le petit souci que nous éprouvons, c'est notamment un souci de trésorerie, puisque ce sont des demandes à renouveler tous les ans, ce qui fait qu'entre le moment où le dossier donc est émis, le dossier est traité, on peut se trouver, c'est le cas actuellement de la MJC qui porte notre MSAP, dans une situation de trésorerie difficile, puisque on ne peut pas décemment dire à un personnel, mais attendez 3 mois que nous ayons perçu la prime pour percevoir votre salaire. Et donc on a ce point-là, et a priori, et pour le moment, c'est toujours le cas, les partenaires associés qui sont la CARSAT, la MSA, enfin, tous les, la CAF, Pôle emploi,
l'EDF,
voilà. Je crois que c'est à peu près tout, il me semble qu'on en a 5, nous. Bon, eux sont toujours, reconduisent toujours leurs aides, mais néanmoins, on sait que la labellisation Maison France Service permettra une augmentation des moyens qui seront accordés. Alors, c'est vrai, on se rejoint tout à fait, Patrick, c'est que on fonctionne avec les règlements qui nous sont, et les orientations qui nous sont données à un moment donné. Maintenant, la pérennité dans le temps, eh bien, je ne crois pas qu'elle soit fixée nulle part. Enfin, qui aurait imaginé à un moment donné que la poste d'Aubignan allait disparaître? C'est le cas. Elle allait être remplacée par un bureau postal. On l'a vu, Aubignan, 5600 habitants. Qui aurait imaginé à un moment donné donc le receveur de Bédouin disparaîtrait pour aller à Mormoiron alors qu'on est une commune réputée dynamique ou autre? Donc,
on va avoir le même souci sur ces deux questions, la Bédouin et Mormoiron. Le maintien des deux accueils de proximité à 10 km me semble.
Lequel mangera l'autre?
Et voilà, à un moment donné, ça va poser problème. Ouais. Donc il va falloir aussi se battre sur cette question-là.
Voilà. Donc c'est pour cette raison que je vous propose de prendre cette motion avec l'espoir d'être entendu, d'être écouté. Des oppositions particulières? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Dans les questions diverses, des questions orales. Une question donc de monsieur Constant, monsieur Campon. La commune engage la procédure de déclaration de projet pour la réalisation d'une centrale solaire sur le site de l'ancienne carrière des Crocs. Dans la délibération du 27 mai, il est stipulé qu'une concertation préalable sera volontairement conduite afin d'associer les habitants et les associations locales à l'élaboration du projet. Même si une première réunion publique a été organisée récemment, ne serait-il pas nécessaire que la commune s'engage davantage dans la voie de la concertation, de même que dans le projet en lui-même? La participation des acteurs locaux, communes, associations et habitants au financement est essentielle car elle permettrait de garder un droit de regard sur ce projet qui, bien que privé, impliquera nécessairement des acteurs locaux. Pourquoi ne pas organiser une participation financière de la commune et des citoyens à ce projet? La commune pourrait par exemple participer au financement à la même hauteur que celui d'un groupement d'habitants désireux de s'y impliquer. Donc c'est la première question, mais M. Petit, vous pouvez nous répondre?
Oui, si vous voulez.
Donc aujourd'hui, nous en sommes à choisir le cabinet qui va nous accompagner sur la procédure d'adaptation de notre PLU pour avoir un projet qui soit compatible avec le PLU ainsi transformé. Donc c'est la première étape dans laquelle on se lance là ces jours-ci. Donc voilà comment ça va se dérouler. Donc nous allons prendre attache effectivement avec les services de l'État pour savoir si cette ancienne carrière peut être effectivement transformée et accueillir du photovoltaïque. Donc ça c'est notre partie. Par ailleurs, le pétitionnaire déposera auprès de l'État une demande de permis de construire, puisque c'est l'État qui va instruire et délivrer in fine, si ça doit se faire, le permis. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas, j'allais dire, au moins le feu vert, c'est-à-dire être sûr que on pourra, ce projet pourra voir le jour, il me paraît, enfin, on en a discuté avec prématuré, de dire aux gens, on va ouvrir un guichet, les gens vont venir s'inscrire. C'est encore, je veux dire, le général Solaire attend aussi d'avoir un minimum de feu vert pour s'engager et faire un tour de table avec des investisseurs. Et M. Castelladi, comme il a dit quand il a fait la présentation au conseil municipal, l'a redit à la réunion, que la générale du Solaire avait pour habitude, si les gens en émettaient la demande, d'ouvrir une participation. À ce moment-là, effectivement, il faudra qu'on voit effectivement comment on met en place, c'est-à-dire combien effectivement si le projet est validé et donc a toutes les chances de voir le jour, quel va être le tour de table. Donc ça ne sera pas, pour l'instant, ça ne sera pas sur l'année civile en cours. Donc, ce qui veut dire que effectivement, une participation de la commune, ça risque d'être plutôt une question qu'il faudra se poser pour l'exercice suivant, voir si le permis n'est là que en fin de l'année, plutôt fin de l'année 2020, voir sur l'exercice suivant. Donc c'est aujourd'hui, et nous paraît encore un peu prématuré pour dire on va ouvrir une souscription. Donc l'idée, on l'a bien entendu, on l'a retenue. Donc ça, c'est clair. Je pense que ça a été dit par la présentation au conseil municipal et ça a été réévoqué lors de la réunion. Il y aura aussi un moment important, c'est-à-dire ça sera le moment de la révision du PLU où il y aura une enquête publique. Donc il y aura aussi, là, tout le monde pourra à nouveau se réexprimer, apporter des contributions, et puis quand on aura cet aval-là, c'est-à-dire quand on nous dira oui, le PLU est compatible pour pouvoir installer une centrale photovoltaïque sur Bédouin, à ce moment-là, effectivement, il faudra réinformer les gens, peut-être, parce qu'à un moment donné, s'il ne se passe rien, effectivement, pendant 3-4 mois, mais c'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement voir quelles sont les demandes des particuliers, des associations, voire des collectivités locales.
Oui. Sachant tout de même que va se poser un problème, c'est que, comme vous le dites, pour pouvoir influer sur les décisions, eh bien, là aussi, on est un peu dans le cadre d'une de relations contractuelles pures et dures telles que celles qui régissent les sociétés, c'est qu'il est important d'avoir la majorité pour pouvoir orienter. S'il s'agit simplement de payer pour être un faire-valoir pour donner bonne conscience aux habitants en leur disant « mais apportez-nous de l'argent », au contraire, presque ça conforterait les entreprises qui se lancent dans ce type de procédure. D'autre part, l'investissement, mais là je vais faire appel à M. Constant, puisque la dernière fois on a vu qu'il avait des lumières, quel est le prix de revient d'un mètre carré d'une centrale photovoltaïque établie à quelques heures,
Très variable, suivant.
Oui, c'est variable.
Là, c'est difficile d'avancer des chiffres, mais moi, ce que je sais, on a un petit peu discuté avec Patrick, c'est après le contrôle qui peut être fait au sein de ces sociétés quand on est minoritaire.
Ouais. Ils sont
personnellement, je sais que là-dessus, après, tout est possible, je dirais, dans les orientations des financières qui peuvent être faites, notamment sur la maintenance, sur le remplacement, sur le rendement, sur beaucoup de choses. C'est
Ma question était plus sur le principe aussi. On est d'accord qu'il faut attendre d'avoir les autorisations, parce que ça va peut-être pas se faire. Peut-être que le préfet nous dira, ben non, vous pouvez pas sur cette carrière-là, hein, vu les questions environnementales, etc., faire une centrale. Ok, mais c'était sur la question du principe. C'est-à-dire de s'engager sur... voilà. Parce que derrière, il y a cette centrale-là, mais derrière, on construit une salle de sport. Pourquoi il n'y aurait pas aussi du photovoltaïque sur la toiture, etc., etc. Je veux dire, c'est aussi des engagements de ce type-là que je souhaiterais que la commune puisse discuter. Voilà. Sur ces questions de transition énergétique.
Pour le prix, j'ai pas... Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme indication?
J'ai pas de...
De fourchette, hein.
J'ai pas de chiffres.
Pas de chiffres.
J'ai trop peur qu'il soit...
Parce que j'imagine que ce doit être quand même assez conséquent.
Ça, il y en a pour 4 millions d'euros.
Ah oui, c'est le projet, oui.
Après, il y a les postes de transformation qui sont très conséquents, les transformateurs, les élévateurs de tension, il y a toute la partie régulation. Faire un ratio au mètre carré, c'est...
Oui, c'est plus compliqué. Mais disons, sur un projet de 4 millions d'euros, et comme vous le disiez légitimement, c'est toujours important quand on investit de garder le contrôle. Ça veut dire qu'il faudrait mettre 2 millions.
Ah, mais ils ne seront pas eux. Dans ce qu'a dit M. Cassé-Lazzi, c'est que ça serait un cinquième ouvert.
Oui,
c'est à peu près autour de 800 000 euros. Hein, ça n'ira jamais au-delà. Hein. Donc ça, c'était très clair. Enfin, ceux qui étaient avec nous.
Garder la main mise sur le projet.
Pardon ?
Garder la main sur le projet.
Oui, ben, voilà.
Oui.
Mais idéalement, ça aurait été d'avoir des parts pour zéro, quoi.
Oui.
Mais idéalement, ça aurait.
On avait une possibilité, je pense, au départ, hein, de négocier quelque chose dans ce sens-là.
Oui, mais bon, avoir des parts minoritaires, on a peut-être préféré une sagesse agricole permettant de récupérer du sol.
Non, non, moi ce que je veux dire, c'est qu'on ne payait pas. C'est-à-dire, sur le résultat, on prenait 5%, on ne payait pas, parce qu'on est facilitateur et on impose obligé de rendez-vous par rapport au projet. Et donc, forcément, après, sur le retour d'investissement, on touchait notre part, on était zéro, quoi. Hormis. Le travail et la collaboration que l'on apportait comme on en apporte ce jour. Après, l'engagement, je dirais, supplémentaire pour arriver à 20%, ça c'est un débat.
Ouais. Aujourd'hui, retour sur investissement comme un ratio de gain.
À mon avis, ils ont minimisé, ils sont à 200 000
ans, je crois. 200 000 par an.
200 000 par an, c'est plus que ça.
Ouais, à mon avis, oui.
Ils ont minoré les retours sur investissement. Ils sont plus conséquents que ça. C'est pas sur 20 ans.
Ouais, très bien.
Voilà. Comme sur les habitations desservies, il y a pas 1700 foyers avec le chauffage.
Hors chauffage. Non, hors chauffage.
Oui, non, mais la précision, il a apporté une fois que j'ai soulevé le lot.
Hors chauffage.
Très bien. Bon, merci. Voilà, je pense qu'on a répondu. Là, ensuite, deuxième point, nous avons voté une motion de soutien à l'ONF face au risque de démantèlement de ce service. Le risque étant de voir déléguer la gestion des forêts communales à des prestataires privés ou à une régie. À ce jour, un projet de décret sur la simplification de la procédure des autorisations administratives envisage de se passer de l'avis de l'ONF pour les opérations de déboisement dans les forêts publiques. A-t-on à ce jour plus d'informations sur la situation? Doit-on anticiper avoir un débat sur la gestion publique ou privée de la forêt? Alors donc, a-t-on plus d'informations sur la situation? Effectivement, ce décret existe. Le projet de décret, pardon, existe. Néanmoins, il n'est pas pris. Et quant à voir le débat sur la gestion publique ou privée de la forêt, c'est bien effectivement une partie du débat qui a lieu en ce moment. Et j'étais donc dernièrement au congrès des communes forestières à Épinal, où nombre de points ont été débattus. L'une des questions étant effectivement de savoir quel était l'avenir de l'Office national des forêts, dont on reconnaît la compétence, mais qui se trouve être, pour des raisons diverses et multiples, en déficit de 600 millions annuellement en ce moment. La question qui se pose était doublement préoccupante, surtout pour nous, les communes, puisqu'il s'est agi de définir si, là je parle de façon tout à fait globale, si l'ONF doit continuer d'exister en tant que service public, et surtout de savoir si l'État veut y mettre des moyens. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a, je vous le fais très rapidement, pour que l'ONF fonctionne, il y a d'abord la dotation d'État, la volonté que la forêt soit donc un bien considéré comme un bien collectif et je n'ose pas dire inaliénable, puisqu'il y a du bien d'État et puisqu'il y a du bien de privé, nous en faisons partie, même si nous sommes une structure publique, et puis il y a aussi donc, les opérateurs donc, qui sont purement privés. La première question, donc il y a ce fonctionnement, ce financement-là qui existe. Ensuite, il y a les ressources propres que dégage l'Office national des forêts. Par exemple, vous savez que pour nous, communes de montagne, toutes les prestations qui nous sont fournies par l'ONF font l'objet d'une rémunération à 10%. Cela est valable aussi bien pour la fouille des truffes que pour la location d'antennes, comme c'est le cas, nous avons quelques locations, quelques hébergements dans le Ventoux, donc tout ceci entre dans la recette globale. Et le troisième point, c'est là où le bas avait blessé sérieusement, c'était la participation des communes. La participation des communes, vous savez que pour chaque hectare de notre forêt, et quand je dis forêt, je parle de la totalité des, disons, pierriers y compris, hein, puisqu'on nous fait valoir que s'il n'y a pas de surveillance d'exploitation, il y a une surveillance de police, on va dire, sur ces zones-là. Pour chacun de ces hectares, nous payons 2 euros par an de contribution. Ce qui fait tout de même qu'on se retrouve avec plus de 12 000 euros chaque 1er janvier en se réveillant qu'il faudra défalquer des ressources de la forêt. Bon, ça c'est un fait. Il avait été question aussi, ce qui était la solution la plus simple, c'est de faire, il y a quelques années de cela, il y a 4 ou 5 ans, et de la même manière j'étais allé à Nancy avec un certain nombre de nos collègues de la COFOR de la région, à l'époque c'était PACA, c'était pas encore Sud PACA, mais en fait, tous les départements autres que nous, puisqu'il n'y avait pas encore de COFOR Vaucluse à l'époque, nous y étions allés puisqu'il était question de faire augmenter à 14 euros de l'hectare la participation communale. Je veux dire, c'était une manière de résoudre une équation déficitaire de la façon la plus simple et la plus simpliste. Alors bien entendu, nous n'avons pas été d'accord. Qui est d'accord quand il s'agit de payer, surtout quand on n'en avait aucun service supplémentaire. Donc on avait réussi à repousser ceci. Et aujourd'hui, donc, on s'aperçoit que l'État revient un peu en catimini. Alors d'ailleurs, le directeur de l'ONF de l'époque là, a été donc vivement prié d'aller exercer d'autres activités dans un autre secteur. Mais enfin, il n'y a pas que la personne, et surtout pas la personne, c'est surtout l'idée générale de savoir ce que veut faire l'État de sa forêt, de notre forêt, de la forêt. Et là, donc, nous en sommes là, et nous, de la même manière, les COFOR, nous avons émis un manifeste, hein, puisqu'on avait tenté à tort, disons, de monter les personnels de l'ONF contre les propriétaires de forêt en disant, voyez, votre service est déficitaire, donc il faut que ce soit eux qui payent plus. Nous, on n'est pas d'accord pour payer plus quand on n'aura pas d'avantage. Donc ce qu'on a notamment demandé et qui va tout à fait, je tourne quand même toujours autour dans le sens de la méfiance qui est la nôtre vis-à-vis de certaines de ces mesures préconisées. Donc nous voulons que soit maintenu et renforcé le régime forestier, hein, c'est-à-dire que les personnels de l'ONF qui font de la gestion durable, qui ont une expérience connue et reconnue, donc on a besoin, on est tout à fait d'accord pour que cela continue, mais il faut que ce soit, on l'a dit aussi, un grand service public forestier pour l'ensemble des forêts françaises, hein, puisque si l'on commence à ne parler que d'histoire de rentabilité, il est certain que les forêts méditerranéennes, on va être tout de suite rayé de la carte, hein, si vous me permettez l'expression. Quand je discute avec des collègues qui vendent de l'épicéa, qui vendent beaucoup d'autres bois, qui soient des bois de construction ou d'autres bois plus nobles, et quand on parle du chiffre d'affaires de leurs forêts, quand on sait que nous, le nôtre, c'est 85 000 euros par an, et encore tous les 142 autres communes du syndicat forestier parce qu'il y en a sur Saint-Sécaté, tout le monde n'y adhère pas, nous regarde comme si c'était miraculeux, croyez-moi, on fait petite figure vis-à-vis de cela. Alors donc, néanmoins, on a toujours besoin de cette unité de gestion, de cette technicité, mais néanmoins, on ne peut pas aller jusqu'à compenser tout ce que l'État ne veut plus payer. Ensuite, par contre, d'autres points, là, séparer les missions de service public des activités marchandes, puisque vous savez que l'Office national de la forêt est en charge de faire tous les marchés à ce jour. Tout ce qui se vend sous forme de marchés qui sont réglementés, contrôlés par l'Office. Alors après, il y aura peut-être, là aussi, il faudra peut-être prendre garde à ce qu'il y ait toujours une liaison entre le marché, à ce qu'il y ait toujours un retour, notamment pour les vendeurs, de manière à ce qu'il y ait une certaine harmonisation des prix, ou du moins une certaine connaissance des prix qui ont été pratiqués. Et bien entendu, ce qu'on a demandé aussi, c'est que les forêts communales, il doit y avoir des élus qui sont au centre d'une gouvernance à reconstruire. Il n'est pas question que les agents forestiers donc gèrent de la même manière ce qui leur appartient, ma foi, pourquoi pas, c'est de la forêt d'État, c'est de la forêt domaniale, et les forêts des propriétaires publics en particulier, même puisqu'ils gèrent quand même beaucoup plus de public que de privé pur, et donc il faut aussi que l'on soit entendu. Et donc, vous voyez, parmi les diverses mesures, eh bien, ce fameux décret qui est à l'étude, mais qui est sous l'œil attentif de la COFOR, des communes forestières donc françaises et du Vaucluse en particulier. Donc là-dessus, on n'est pas...
Une petite question. On connaît ton attachement à la forêt. Et si demain, en faisant un peu de prospective, la commune récupère la gestion de sa forêt, on est sur quoi, d'après toi, une gestion publique ou une gestion privée?
Mais publique par qui? Par un service, pour recréer un service municipal?
C'est ma question, c'est-à-dire, oui, par exemple. Ou intercommunal, ou je ne sais pas. Tu vois, quel est là-dessus? Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as une opinion sur cette question-là?
Non, pour le moment, moi, le système tel qu'il existe me satisfait, parce que comme je vous le disais, il y a quand même une technicité indiscutable. Il y a une vision globale qui existe, qui est importante. Pour remplacer tout ceci, payer plus cher pour avoir...
Ouais, sauf que le net, aujourd'hui, on le voit bien, il va pas résister, à mon avis, aux attaques actuelles de l'État. Et il va pas pouvoir.
Ça fait 10 ans qu'on en parle.
Oui, ça fait
longtemps. On a quand même eu un exemple par le passé, quand... pour la gestion des zones de Natura 2000, où c'était l'ONF qui gérait, maintenant c'est le SMAEV, et à un moment donné c'était parlé de l'intercommunalité aussi.
Oui,
donc tout peut arriver dans l'avenir.
Voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure pour une autre. Mais moi ce que je crains plus, c'est qu'un jour ce soit plutôt l'État qui dise, et en particulier pour des forêts comme les nôtres, parce que bon, on n'est pas des forêts. Qui rapporte, soyons clairs. Je crains plus qu'on nous dise un jour l'ONF va se consacrer aux forêts, la forêt du Troncet, enfin, tous ceux qui, en gros, au nord de la ligne qui est au-dessus de Valence, hein, en faisant une part belle aussi à tout ce qui est à l'est dans le massif alpin. Pour ma part, ça ne me satisferait pas, sachant que de toute façon, ça reviendrait plus cher. Mais après, la question qui se pose, c'est presque une question sociétale. La forêt, c'est quoi? Est-ce que c'est qu'un endroit où on va pour couper du bois? Il ne faut quand même pas oublier qu'il est nécessaire de couper du bois, hein, dans les forêts. Certains disent parfois que c'est assez scandaleux que l'on soit obligé, mais une forêt, c'est quand même quelque chose qui s'exploite. Après, il faut l'exploiter au meilleur escient. Et donc, ce serait pas une... le rendre aux communes, pourquoi pas, mais enfin, l'État ne le fera jamais, mais en leur donnant tout de même les moyens de continuer à la gérer. Mais en général, qui paye aux commandes, et ça ne se ferait pas dans cette configuration. Voilà. Très bien. Voilà, le peu que je sais pour le moment, mais sachez que dans la forêt, pour reprendre leur slogan, le bois avance et ça bouge beaucoup, quoi. Et un autre point aussi, c'est que l'on s'aperçoit justement quand il avait été question d'abandonner cette taxe de 14 hectares qui était à 2, de ne pas la faire passer, de 14 euros à l'hectare, pardon, et de la maintenir à 2, il avait été demandé aussi à ce qu'il y ait davantage de bois qui soit mis sur le marché, parce que les forêts françaises sont sous-exploitées. Ce qui n'est pas un gage de qualité, parce que le bois, mais comme les fruits, il faut le ramasser au moment où il est mûr. Et même s'il y a une faculté d'attente qui peut être intéressante parfois quand on a, par exemple, des tempêtes ou des invasions parasitaires qui font que l'on doit rapidement couper un certain nombre de quelques milliers de mètres cubes de bois, eh bien on s'aperçoit que le marché français est un peu moins attractif que certaines forêts plus septentrionales, parce que nous n'avons pas suffisamment de volume et que les faiseurs cherchent les volumes.
Oui, puisque on est dans un marché, capitaliste, donc du coup, c'est le cours du bois qui va faire que... Hein, mais la forêt, aujourd'hui, il faut la considérer pas comme un marché, il faut la sortir de cette question-là, pour moi, hein. Voilà, il faut la sortir de cette question économique et de ce marché-là, et la préserver, parce qu'elle est importante par rapport à l'évolution climatique, etc. Enfin, je ne vais pas refaire le discours, mais voilà, c'est en ça que je voulais qu'il y ait des prises de conscience aussi sur ces questions-là. Pas une marchandise comme les autres.
Juste, et qui va très lentement.
Eh oui.
Très bien. Deuxième, les questions. Question de M. Constant. Nous souhaiterions aborder à l'occasion du Conseil municipal du 8 juillet le point suivant. Projet Romanité, aménagement de l'ancienne caserne des pompiers. Pardon, état d'avancement. Messieurs, M. Rouillard.
État d'avancement, on en est encore à la phase étude. Pour l'instant, l'archi finalise tous ces dossiers descriptifs qui sont pour terminer. Et puis après, leur mise en concurrence sur la partie travaux, on n'y est pas.
Là. Les marchés n'est pas lancé et n'a pas de retour de permis.
Ah non.
D'accord.
Ça avance, oui.
Ça avance doucement, mais ça va décaler sur combien de permis il va arriver. C'est pas encore.
D'ici à 3 mois, maximum.
D'ici la fin de l'été.
Très bien. Donc, pas de questions diverses. Vous avez bien entendu l'état des décisions du maire qui ont été prises d'avril à juin. Donc, vous remarquez, mais comme d'habitude, beaucoup de non-préemptions. Et ça signifie quand même que le marché du foncier bouge.
Oui. Une question. Oui, ça peut noter. Je me retrouve. J'ai vu un endroit qui avait les barrières de la piscine.
Ça marchait pour les barrières.
Ouais. Ah, c'est que je.
Mise en accessibilité du camping.
Oui, les gardes-corps.
Le 12-6.
Quel numéro ? Du combien ? Du combien que j'ai contenu ?
Le 12-6, la AU 2019-073.
Les équipements municipaux, oui.
C'est installé en bord.
Le coup, c'est pas installé.
C'est en train.
Le coup, c'est ? Pardon, c'est combien le coup ?
C'est dans le marché, hein.
C'est là ?
C'était dans le marché,
c'est ça ? C'est 14 820 euros hors taxe. C'est Sud Ferralu. On est au-dessous des seuils de marché concurrentiel, si c'est ce qui est votre question.
Non, c'est pas le.
Voilà, vous le savez.
Ok.
Très bien. Je vous remercie. Mes petites annonces. Un point particulier, nous avons été sollicités vivement par monsieur le préfet pour retirer le PLU que nous avions adopté au mois de mars, dans modification numéro 2. Donc nous avons pris contact avec ces services pour voir exactement de quoi y retourner. Bon, on est toujours dans l'attente de leur retour, de leur consultation. Nous avons bien entendu, nous aussi, pris langue avec l'avocat de la commune, puisque dans ces situations, on cherche toujours à en savoir le plus possible. Voilà, les choses vont se dérouler. A priori, on n'envisage pas de retirer purement et simplement la décision. Plusieurs choses peuvent se passer, soit il peut y avoir une... Enfin, on attend de savoir exactement quels seront les points réputés faibles.
Aucune idée.
De notre...
Tu n'en as aucune idée.
Alors, ben, on nous parle l'un des points principaux, c'est bien entendu une zone de protection paysagère. Donc c'est le pesquier, je pense.
Ben oui.
Certains se sont largement diligentés pour que les choses...
Le compte de vue, les pesquier, entre autres, peut-être pas que celui-là, mais il peut y en avoir d'autres.
On a aussi le secteur de... Qu'est-ce que j'avais noté là, ici. Donc un rapport environnemental qui aurait été livré tardivement. Le diagnostic paysager. Et puis, oui, il y avait des documents graphiques du règlement du PLU imprimés sur un format A3 ne permettent pas d'identifier les parcelles concernées par l'ensemble des prescriptions du PLU.
Notamment les zones.
Oui, c'est un air connu qu'on nous a servi et resservi. Bon, ceci dit, là on a quand même, bon, quel que soit l'argument, on utilise des documents qui sont fournis par la COV, qui instruit la plupart des toutes les communes du SPOT, les 25 nôtres plus la douzaine du plateau. Donc à un moment donné, si on se fait attaquer sur tel point, ben, je pense qu'il va y avoir du monde dans les prétoires et qu'il va y avoir la queue au tribunal administratif si on se penche sur de tels détails. Enfin, donc voilà, donc moi je vous dis, j'ai pas l'intention de retirer, donc on verra la suite des événements.
Il ne parle pas de conformité avec le SCOT, non?
Alors le SCOT, il a fait l'objet d'une... non, ils n'en parlent pas. Le SCOT, par contre, il a fait l'objet d'un examen en comité de massif des Alpes, qui, comme chacun le sait, regroupe les départements de la région Sud PACA et les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se réunissent, mais un peu moins autant, en tant que de besoin, dans des lieux aussi proches, divers et variés que Grenoble, Clermont-Ferrand, Valence, le cas échéant et autres, mais ce qui nous oblige à faire des déplacements assez conséquents. Donc il a été examiné ce mardi, il me semble que c'est en début d'après-midi, à 16h30. Bon, il semblerait que là aussi, bon, quelques remarques. On n'en a pas la teneur encore, mais bon, rien de bien, plutôt un avis plutôt favorable du SCOT, enfin du comité de massif des Alpes pour ce SCOT du territoire et qui regroupe la COV et Vannes tout Sud. Voilà. Quelques autres renseignements, mais des subventions obtenues de la région Sud PACA, diagnostic pastoral du CERPAM, c'est le fameux dont nous avions déposé la demande la dernière fois, pour faire l'analyse des zones de pâturage. Donc c'est un diagnostic qui est intégré dans le plan d'aménagement de la forêt pour un montant de 8100 euros, pour lequel nous avons perçu 6480 euros. Pour la restauration du pavillon de Roland, où vous vous en souvenez, nous voulons mettre en avant tous les travaux de reboisement du Mont Ventoux par les générations qui nous ont précédés. Nous avons obtenu pour un montant des travaux de 125 000 euros. Nous avons obtenu de la région Sud PACA 50 000 euros, sachant que nous ne nous sommes pas parvenus encore les aides éventuelles du Conseil régional, d'autres aides sollicitées auprès de partenaires privés, la Fondation du Crédit Agricole, par exemple, qui d'autre ? La Fondation du Patrimoine, voilà où nous allons renouveler la pratique que nous avons mise en œuvre pour les vitraux. Nous avons commencé les travaux de lutte contre l'érosion, reboisement des terrains de montagne qui se font derrière le chalet Rénard et à la Grave. Les choses démarrent. Là aussi, vous vous souvenez, on a vu notamment les financements d'État. Le département nous a confirmé pour l'opération façade d'un montant de 9 148 euros, une participation de 2 744 euros. Vous vous souvenez que c'est cette opération qui nous permet d'aider tous les particuliers qui réhabilitent ces façades dans l'objectif, bien sûr, d'avoir un village plus attractif et de permettre aussi à certains, avec une participation à ces travaux, ben de réaliser justement ces améliorations. Nous avons aussi sur 6 400 euros qui concernent le suivi et l'animation de cette campagne donc, qui est menée par Solia, le bureau Solia. Nous avons reçu une aide de 3 200 euros. Et autre bonne nouvelle qui est arrivée aujourd'hui, le département nous a octroyé 21 000 euros de subvention pour les amendes de police qui entreront dans le budget de réalisation de la route du Mont Ventoux. Vous le savez, donc les travaux d'enfouissement des réseaux, pour le moment, sont quasi terminés. Enfin, ils sont sur le chemin de la montagne, direction Bélésie. On a tout rebouché pour le moment. Alors, bon, bien sûr, c'est pas un billard. Les cyclistes pourront nous le confirmer. Donc, et on ne reprendra que les travaux, bien sûr, de réalisation de ces trottoirs et de tirage des fils, hein, que ce soit le téléphone, que ce soit l'électricité. On reprendra à l'automne, donc on a obtenu là 21 000 euros. Voilà. Pas de remarques particulières, je vous souhaite un bel été. Je vous invite à participer nombreux aux multiples animations qui vont avoir lieu. Donc, mangez léger, buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous et passez un bel été. Merci pour votre présence et merci à la presse.
Merci.
À 19h, 42.